Bonsoir et bienvenue dans l'écho de l'été. Chaque samedi de ce mois de juillet, nous recevons un acteur économique ou un passionné d'économie qui nous aide à comprendre ce qui s'est passé d'incroyable cette année et surtout, bien sûr, ce qui va se passer demain. Notre invité répond d'abord à mes questions, puis à celles de jeunes présents dans le studio. Aujourd'hui, ils viennent notamment de l'école de management de Grenoble et de Paris-Dauphine. Et ce soir, l'écho de l'été, c'est elle, Christiane Lambert, patronne de la FNSEA, l'organisation des agriculteurs. Bonsoir Christiane Lambert.
Bonsoir.
France Inter. L'écho de l'été, Dominique Seux.
Christiane Lambert, vous venez d'être reconduite pour un nouveau mandat de 3 ans à la tête de la FNSEA. D'abord, est-ce que vous avez un peu de temps encore pour être dans votre élevage porcin de Bouillé-Ménard dans le Maine-et-Loire? Est-ce que vous avez encore un petit peu de temps? Et puis dites-nous tout simplement quelle est la taille de votre élevage aujourd'hui?
Oui, je passe 3h30, 4 jours par semaine à Paris. Je redescends dans le Maine-et-Loire tous les vendredis. Et comme l'élevage fait qu'on doit s'occuper des animaux le samedi et le dimanche, le week-end, je travaille avec mon mari dans l'élevage de porc.
Donc c'est lui qui s'en occupe le reste de la semaine.
C'est lui le fil rouge et le permanent de l'exploitation. Heureusement qu'il est là, sinon nos animaux auraient une mauvaise vie. Et donc je suis très absente, mais présente le week-end. Et notre exploitation est centrée sur l'élevage de porc. Nous avons 235 truies mères qui donnent naissance à des petits que nous élevons pour les vendre à l'abattoir, pour faire de la viande fraîche et puis des charcuteries de l'ouest de la France, donc plutôt des charcuteries cuites que les charcuteries sèches, le jambon d'Auvergne qui est ma région d'origine. Et nous cultivons 106 hectares de culture, du blé, du maïs, de l'orge, du triticale, que nous conservons dans des silos pour nourrir nos animaux. Et aussi de la paille, 180 tonnes de paille, puisque nos truies sont élevées sur paille.
Alors, vous avez grimpé toutes les marches du syndicalisme agricole. Les Français, bon, vous connaissent désormais bien, hein, et pas seulement parce que vous êtes la première femme à la tête de la FNSEA. Ça, je le dis au passage, c'est le genre de phrase qu'on dit un peu par habitude, mais qu'on regrette toujours parce qu'elle vous met un peu dans une case. Bientôt, on espère que nous ne dirons plus la première femme à occuper tel ou tel poste. Mon petit doigt me dit que vous allez peut-être bientôt être en charge du syndicalisme agricole européen. C'est exact ?
C'est exact. J'ai été sollicitée par le président actuel du COPA, le syndicat des agriculteurs européens, qui regroupe 71 organisations venant de 27 pays européens. Joachim Rückwig est allemand, il est président du syndicat allemand. Il va passer la main et depuis un an, il m'a demandé de prendre le relais. Et après avoir beaucoup hésité, j'ai accepté de candidater et l'élection aura lieu en septembre, le 17 septembre.
Donc vous allez voyager dans toute l'Europe, à la fois dans l'agriculture française et dans toute l'Europe.
Vous savez, l'horizon agricole est très souvent un horizon européen. La France est un grand pays agricole. La politique agricole est une politique commune depuis les années 60. Et c'est une bonne chose. Elle a permis à l'Europe d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes un syndicat reconnu en France. La COPA est reconnu au niveau européen. Et avec tous les débats du moment sur la politique agricole commune, la stratégie de la ferme à la table ou la stratégie biodiversité, mais surtout l'enjeu de la souveraineté alimentaire, j'ai trouvé important de pouvoir porter la voix et la vision que nous portons
et
nous
d'une souveraineté
alimentaire.
Et c'est important que ce soit une Française qui, dans ce débat sur la politique agricole commune, soit là. Vous avez la redoutable tâche de diriger et d'incarner un secteur qui économiquement est toujours un peu sur la ligne de crête et à qui on demande beaucoup. On nous demande de nous nourrir sainement, de nous nourrir au prix les plus bas possibles, de nous nourrir le reste du monde, puisque vous contribuez aux exportations de la France. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ce qu'on attend de vous? C'est vrai, c'est un secteur à qui on demande beaucoup en France.
J'ai l'habitude de dire que l'agriculture, c'est bien plus que l'agriculture. C'est de l'économie d'abord, vous avez raison, près de 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires, beaucoup d'emplois. 14% des emplois français sont de près ou de loin reliés à l'agriculture. Mais l'agriculture, c'est aussi les territoires. La France est belle parce qu'elle est cultivée partout par des agriculteurs. L'agriculture n'est pas la même en Savoie ou dans le bocage de la Manche. Elle n'est pas la même en Alsace ou dans le Massif central. Mais les agriculteurs ont su partout s'adapter à ces typicités de territoire, du bocage, des champs, de la vigne, des plateaux, des coteaux, et tirer le meilleur de leur environnement. Et puis, il y a aujourd'hui une préoccupation montante qui est l'environnement, la protection de l'environnement, la valorisation de l'environnement
également.
Est-ce
que vous avez l'impression que les Français aiment les agriculteurs ou que la relation est un petit peu mitigée, mélangée, qu'elle dépend des périodes?
Alors, les Français aiment les agriculteurs et le disent, ils nous plébiscitent à 87%, c'est un métier difficile, bien coté comme les pompiers et les médecins. Mais il y a aujourd'hui des questionnements nouveaux, portés y compris par des associations très militantes et avec des verbes hauts, que ce soit sur les associations animalistes ou les associations environnementalistes, ce qui donne lieu parfois à des critiques assez dures et des verbes que nous n'aimons pas. Et donc le débat est plus compliqué avec les associations qu'avec les Français eux-mêmes.
D'accord. Alors, il y a beaucoup de sujets abordés avec vous, mais pour commencer à aller vraiment dans le dur, si je puis dire, une question toute simple. On vit une période assez inimaginable. Est-ce que pendant le confinement et depuis le confinement, les habitudes alimentaires très pratiques, très concrètes dans nos assiettes ont changé des Français?
Oui. Les modes d'achat ont changé. Les Français ont eu peur de manquer, ils ont eu peur de pénurie, donc ils ont acheté beaucoup de produits stockables, des pâtes, du riz, de la semoule, de la farine, ils ont fait beaucoup de gâteaux, ils ont acheté des machines à pain, donc des produits basiques qu'on peut mettre dans les placards et qui durent longtemps. Ils ont aussi acheté plus de plats préparés. Ils ont aussi plus eu recours au drive, plus 29% d'achats via le drive ou des click and collect pour ne pas avoir le contact en magasin. Ils ont aussi acheté plus de produits locaux, de proximité. Ils ont redécouvert qu'ils avaient des producteurs en périphérie de chez eux. Et ils ont acheté plus de produits français. Donc ça,
d'accord.
C'est un bilan positif.
Mais ce
positif.
Qui frappe d'abord dans ce que j'entends, c'est les Français ont beaucoup acheté de produits hygiénisés, si on peut dire.
Voilà
avec du plastique autour et qui n'est avec plus de valeur ajoutée que la nourriture toute simple, donc presque industrielle, ce qui n'était pas la tendance qu'on avait depuis quelques années.
Avant le confinement, rappelez-vous ce que disait Brune Poirson, bannir le plastique, et tous les Français disaient, faut enlever le plastique. Pendant le confinement, ils ont arrêté d'acheter le pain chez le boulanger, ils ont acheté plus de pain tranché sous plastique. Jacquet, alors on va dire une marque, à Auvergnat en plus, a fait plus 30% de ventes, et même après confinement, ils sont encore à plus 20% de ventes. Ce qui veut dire que la peur par rapport au Covid, a changé les modes alimentaires. Ça, c'est important. Il y a tout ce qu'on peut dire, il faut. La réalité, c'est que les Français, quand ils sont confrontés à des choix pour eux-mêmes, ma santé, je prends zéro risque, eh bien, je peux abandonner mon idée de moins de déchets, j'achète sous plastique. Et ce
qui
est important, c'est que...
qu'est-ce qui va rester de tout ça?
Ils envisagent de continuer à acheter sous plastique. Donc, ça pose une question quand même.
C'est pas une super nouvelle, ça.
Non, mais c'est une réalité. Je crois qu'il faut la regarder. Alors, qu'est-ce qui va rester? Nous souhaitons conserver la proximité qui s'est créée. Les Français ont redécouvert leur alimentation, le plaisir de cuisiner, l'importance de l'alimentation, la richesse de l'agriculture française qui a pu fournir à peu près tout sans qu'on ne manque de rien. Qu'est-ce qui va rester? Nous travaillons actuellement pour que dans la restauration hors domicile, quand elle va redémarrer, on puisse trouver plus de produits français. On puisse, par exemple, arrêter d'importer 70% des poulets que nos enfants mangent à la cantine, nos militaires à la cantine des armées ou nos soignants et nos malades à l'hôpital, ce qui était le cas aujourd'hui. Donc, garder ces produits français, c'est aussi assumer qu'en France, nous avons des conditions de production qui sont premium et donc que les produits français ont un coût supérieur. Si vous allez acheter des poulets en Pologne ou ailleurs, ils sont moins chers que les poulets français, mais ça ne fait pas travailler les Français. Et donc, notre leitmotiv, vos achats font vos emplois, est quelque chose de très important. On le voit pour le textile, la chaussure, les chaussettes, tout. Pour l'alimentation, c'est très important.
Mais est-ce que vous croyez que les plats préparés, tout ce qui a été consommé pendant le confinement, qui est venu, va redisparaître et on va revenir? Parce que vous nous décrivez un monde un peu rêvé, mais est-ce que les Français vont revenir dans leurs assiettes vers une alimentation plus proche, durablement?
Personne ne peut le dire aujourd'hui. Pour l'instant, c'est encore la peur et donc l'alimentation hygiénisée qui prévaut. Ce sont les plats préparés, parce qu'il y a des habitudes de consommation. Les gens qui n'aiment pas cuisiner resteront sans faire la cuisine. On voit quand même revenir la guerre des prix de la part des distributeurs qui, pendant le confinement, ont joué le jeu. Ils étaient sous surveillance extrême du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Mais là, ils prennent quelques libertés pour dire « le moins cher, c'est moi, revenez chez moi ». On sait très bien que ces pratiques-là peuvent conduire à des prix qui repartent à l'envers, avec des baisses de prix et donc des difficultés pour les producteurs. Mais nous avons aussi vu quelques fragilités. Nous avons vu, par exemple, que nous sommes dépendants à 50% pour les fraises. Nous sommes dépendants à 60% pour les courgettes. On a laissé filer ailleurs qu'en France des productions que nous faisions avant, parce que à toujours vouloir demander des prix plus bas, les fermes françaises ont fait faillite, les productions se sont faites ailleurs, nous sommes aujourd'hui dépendants de l'étranger.
Mais la grande question qu'on se pose tout de suite, c'est, vous nous dites au fond, il faut que les Français s'attendent à ce que leur budget alimentation remonte. C'est-à-dire qu'il faut accepter que nous dépensions tous collectivement pour l'alimentation. On sait bien que depuis 30 ans, il y a eu la part des dépenses de logement a beaucoup augmenté dans le budget des ménages. et la part de l'alimentation a beaucoup baissé. Vous dites, il faudrait que ça s'inverse un peu, on est à 15-20%, il faudrait que ça remonte.
C'est un paradoxe français de vouloir la meilleure alimentation du monde, une alimentation saine, sécurisée, diversifiée, mais moins chère. Quand vous achetez un vêtement français, vous acceptez de mettre quelques centimes ou quelques euros en plus, parce que vous savez que c'est français, plus qualitatif, et que ça fait patriotisme économique, travailler l'économie française. En matière d'alimentation, une habitude qui s'était créée de dire « on peut toujours manger moins cher ». Mais on a vu les faillites que ça a occasionné en agriculture. Donc on ne peut pas le lundi se désoler, pleurer sur le sort des agriculteurs qui ne vont pas bien, voire qui se suicident, qui font faillite, et le mardi courir chercher chez les discounters l'alimentation la moins chère du monde.
La différence de prix sur les fraises, sur les...
Ça dépend beaucoup de la politique des distributeurs. On a vu pendant le confinement des distributeurs jouer le jeu, marger correctement pour gagner leur vie, c'est normal, mais pas faire des marges extrêmement importantes comme d'autres ont pu le faire. Vous savez, dans la répartition de la valeur, sur 100 euros dépensés aujourd'hui par un Français, il n'y a plus que 6,50 euros qui revient à l'agriculteur. Il y a deux ans, c'était 8,20 euros. Il y a trois ans, c'était 9,50 euros. Aujourd'hui, la part de la main-d'œuvre, des normes, des aspects sanitaires, des aspects d'emballage, de transport, de logistique et l'importation représente beaucoup plus. Voir diminuer la part qui revient à l'agriculteur, c'est assécher les exploitations françaises. Voilà pourquoi je pense qu'il faut poser la question dans sa globalité. Et quand le président de la République a parlé de souveraineté alimentaire, il a dit « nous avons des besoins essentiels ». Ils sont apparus au grand jour. Se soigner, se nourrir, travailler. Se nourrir, c'est tous les jours. Se soigner, c'est quand on est malade. Eh bien, le fait d'avoir une alimentation saine, sécurisée, diversifiée à la française, gastronomiquement enviée par le monde entier, a une valeur.
Ça a une valeur, ça a un coût.
Ça a une valeur.
Parlons un petit peu de la conjoncture. Vous avez, la FNSEA, un peu tiré la sonnette d'alarme il y a quelques jours en disant, attendez, la saison n'est pas très bonne, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur le blé, c'est pas terrible. Les récoltes, y compris en orge, oléagineux, etc. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Est-ce que c'est le climat?
Alors,
bon, voilà, il y a des années bonnes, il y a des années moins bonnes, ou il y a d'autres choses?
Il y a plusieurs raisons à cela. Nous venons de faire le point. Sur les rendements de blé, par exemple, ça va de 1 à 6. Certains ont fait 20 quintaux, d'autres ont fait 120 quintaux. Il y a des raisons climatiques, indéniablement. Un hiver extrêmement pourri. Il a plu, les blés ont eu les pieds dans l'eau tout l'hiver. Donc, il y a eu des vraies baisses de rendement pour cette raison-là. Des raisons climatiques aussi de chaulage, des chaudages de grains qui n'ont pas rempli comme il le faut. Et puis, il y a des raisons autres qui sont des raisons liées aux outils de protection des plantes. Par exemple, en colza, tout le monde parle d'avoir une autonomie protéique pour ne pas faire venir de soja d'Amérique du Sud. Mais aujourd'hui, pour faire du colza, il faut avoir recours à des produits phytosanitaires, des fongicides,
Pour certains
ravageurs, ou des insecticides pour tuer les insectes, que la France a retiré de la liste des produits autorisés, que les autres pays utilisent. Donc nous avions 1,4 million hectares de colza, nous sommes passés à 1,2 million, nous allons descendre en dessous d'un million d'hectares. Ça veut dire que les usines ne seront pas remplies, on sera moins performant et on va importer du colza. Il y a aujourd'hui un problème sur la betterave. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux notamment, la betterave est attaquée par des pucerons qui lui développent une virose. Les betteraves deviennent jaunes, les feuilles deviennent jaunes, ne font plus la photosynthèse.
Mais il n'y a pas de substitution possible.
Parce que
c'est vrai qu'on parle, dans le débat public est toujours concentré sur le glyphosate.
Bon, mais c'est une erreur.
En réalité, il n'y a pas que ça, bien sûr. Et donc, il n'y a pas d'alternative aux fongicides et aux pesticides qui sont interdits ou en voie d'interdiction.
Sur le sujet qui concerne...
Ils le sont pour des raisons sanitaires. Ce sont des agences soit françaises, soit européennes qui disent « attention, là, il y a danger pour la santé humaine ».
Alors, les agences ne disent pas toutes que les produits sont dangereux. La France fait des choix. La France a décidé cette semaine de donner 1 million d'euros à des producteurs de carottes pour qu'ils arrêtent de produire des carottes en France. On mange autant de carottes, on les importe, venant de pays qui utilisent les produits interdits chez nous. Est-ce que c'est bien cohérent? Ce qui est en train de se passer sur la betterave...
Oui, mais c'est le produit de recherche
Alors,
sur la
recherche
santé
n'est pas allée assez vite, c'est certain. L'INRAE aujourd'hui n'a pas rempli son rôle, pas suffisamment. Les instituts de recherche non plus, les entreprises non plus. Mais le comble serait, et vous êtes économiste, qu'on arrête la filière betterave et sucre en France et que Coca-Cola, Tesser et tous les industriels qui ont besoin de sucre aillent l'acheter ailleurs, là où ils utilisent des produits qui sont interdits chez nous. La France est le seul pays d'Europe à avoir mis dans une loi interdiction d'utiliser certains produits insecticides. Aujourd'hui, les autres pays se frottent les mains.
Donc vous contestez formellement le calendrier qui est imposé par le gouvernement français, celui-là ou le précédent, vous dites, en fait, il est intenable.
Je conteste les distorsions de concurrence qui sont créées par des décisions nationales très différentes d'un pays à l'autre. 19 pays cultivent des betteraves. 14 pays ont décidé d'une dérogation pour pouvoir utiliser l'insecticide qui tue les pucerons. Pas la France. Moralité, les betteraves sont en train de mourir ou on va faire un rendement extrêmement petit. Les industriels ne rempliront pas leurs usines.
Vous dites, nous demandons du temps pour nous adapter. Ou vous dites, en réalité, la France fait fausse route.
Je dis que la France fait fausse route quand elle décide seule et je demande du temps pour nous adapter. L'INRAE dit que pour trouver un produit ou des alternatives à un traitement, il faut 18 ans et demi. C'est le temps moyen. Au Salon de l'agriculture, un pied de vigne résistant à l'oïdium et au mildiou est le fruit de 17 ans de recherche. Et là, pour les pucerons sur betterave, il a été dit en 2 ans, vous devez trouver la solution. Moralité, on ne l'a pas trouvé. Et donc on risque, pour les 4-5 ans qui viennent, d'avoir une énorme impasse et un effondrement d'une filière pourtant florissante, 1,2 milliard d'apport à la balance commerciale.
Le glyphosate, normalement, 2025 maintenant, qu'est-ce qui va pouvoir être tenu ?
Le glyphosate, l'Europe a donné 5 ans. La France, dans un élan un peu incompréhensible, a dit « chez nous, on fera mieux en 2 ans ». Et puis le président de la République se rend à l'évidence et revient vers la préconisation des scientifiques qui disent « il y a un certain nombre d'impasses ». Pour les vignes et les vergers en pente, pour les agriculteurs
en agriculture de
conservation des sols. Nous demandons que lorsqu'il y a impasse constatée, on ne mette pas les agriculteurs en insécurité économique.
Il y a des discussions en ce moment,
bien sûr,
secteur par secteur.
L'INRA vient de sortir un rapport la semaine dernière qui a justement pointé quelles sont les impasses, dans quel domaine et pourquoi la France, sur une partie des usages, doit autoriser encore de façon dérogatoire.
J'ai lu que vous aviez dit il faudra produire de façon durable, mais il faudra produire. La priorité, ça reste quand même pour vous de produire, non pas, on a compris, quelles que soient les conditions, mais c'est vrai que il y a un débat notamment avec les associations environnementales, l'ONG, les ONG et le gouvernement. Quel est, au fond, le modèle de l'avenir ? Je vais vous faire entendre ce qu'a répondu Barbara Pompili, qui est la ministre de la Transition écologique. Elle était au micro de France Inter jeudi matin. Et la question lui a été posée, au fond, quel est le modèle agricole de demain ? Écoutez-la.
On a un sujet aujourd'hui de faire en sorte que les agriculteurs puissent être mieux formés à l'agroécologie, puissent être mieux aidés quand ils veulent faire un passage au bio, qu'ils puissent mettre en valeur aussi quand ils font de la haute valeur environnementale, ce qui n'est pas encore le bio, mais qui sont des efforts pour mieux travailler la terre. Il faut qu'ils soient mieux rémunérés. Et on a un rendez-vous qui est absolument essentiel, c'est la réforme de la PAC qui va arriver l'année prochaine, sur lesquelles on doit prendre des engagements. C'est un événement qui, pour moi, un rendez-vous qui est un rendez-vous crucial.
Est-ce que, Christiane Lambert, l'agroécologie est le modèle de demain auquel l'agriculture française doit s'adapter ?
Au pays des 1000 fromages, il y a 1000 modèles. Je suis agricultrice dans le Maine-et-Loire.
Donc l'agroécologie, c'est 1 sur 1000.
L'agroécologie, ça a de multiples déclinaisons. C'est l'agriculture biologique, c'est l'agriculture de conservation, c'est l'agriculture durable, c'est la permaculture. C'est une agriculture qui est plus respectueuse des mécanismes biologiques, sols, micro-organismes, microfaunes, etc. Mais qui tient compte de la compétitivité et de la rentabilité d'exploitation. C'est ainsi décrit dans la loi d'avenir de M. Le Foll. Donc, l'agriculture, elle a déjà engagé ce mouvement-là de réduction des intrants, phyto, fertiles, antibiotiques. On a réduit 39% le recours aux antibiotiques en 5 ans. Les deux ministres ont communiqué il y a un mois pour dire qu'on avait réduit de 44% les produits phytosanitaires sur la dernière année et que déjà on avait réduit 30% le glyphosate.
Oui, mais les deux plans éco-phyto n'ont pas respecté leur trajectoire.
Oui, hein. Mais parce que la trajectoire avait été mal calibrée. C'est facile de dire dans un bureau ou dans un ministère, allez hop, je veux voir qu'une tête, vous allez faire moins 50, sans donner les moyens. C'est juste pas possible. Donc moi, les incantations politiques, ça fait 30 ans que j'en entends. La réalité, c'est que si les instituts de recherche nous donnent des solutions, nous saurons faire. Si nous n'avons pas les solutions techniques, c'est plus compliqué. Et puis le changement climatique amplifie les aspects sanitaires. Donc en France, il y a 1000 modèles d'agriculture. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les agriculteurs ont changé leurs pratiques pour aller vers cette agriculture plus durable. Et d'ailleurs, nous le disons à la FNSEA, il faut produire l'alimentation pour tous dans le respect de la planète.
Allez, une dernière question avant de passer dans quelques instants la parole aux étudiants. Vous mentionnez les politiques. Quel effet ça vous fait, vous, quand vous voyez arriver un ministre, donc depuis quelques jours, un nouveau ministre, Julien de Normandie de l'Agriculture. Vous êtes dans le secteur depuis un certain nombre d'années. Lui, il débarque. Est-ce que ça fait un effet un peu bizarre quand même de se dire, ben voilà, il va m'expliquer à moi, leader syndical, comment doit fonctionner l'agriculture alors qu'il n'y connaît rien?
Bah, en l'occurrence, il vient de la ville, mais il a un diplôme d'ingénieur agronome. Donc c'est pas mal. Il y a bien longtemps qu'on n'a pas eu un ministre qui a un diplôme d'ingénieur agronome. Ingénieur agronome, c'est Bac plus 5, c'est quand même pas rien. C'est le diplôme qui est en train de préparer ma fille, donc je trouve que c'est un beau diplôme. Il connaît l'agriculture, il s'en est éloigné parce qu'il n'a pas travaillé dans le domaine, mais on sent qu'il y a les fondamentaux sur l'écologie, sur la zootechnie, la phytotechnie.
Donc la relation commence sous de bons auspices, en tout cas vous lui laissez
une
chance.
Il est jeune allant, nous on lui a demandé de sillonner l'Europe pour faire valoir une vision française de l'agriculture, et puis c'est un ministre qui arrive en disant qu'il veut écouter. Moi, je suis interlocuteur, corps intermédiaire. Je représente les agriculteurs, je porte la voix des agriculteurs qui adhèrent à la FNSEA et beaucoup qui comptent sur nous. Et ce que je souhaite surtout, c'est qu'ils soient à l'écoute et qu'ils cherchent avec nous des solutions face à tous les sujets que vous avez évoqués là.
Merci Christiane Norbert. Vous allez répondre aux questions des quatre étudiants, mais après une respiration musicale. C'était Clara Luciani, La Grenade.
L'écho de l'été sur France Inter.
Nous sommes toujours en compagnie de Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le syndicat des agriculteurs. Et maintenant, comme promis, la parole aux étudiants. Chacun va se présenter. Qui pose la première question? Allez-y.
Bonjour Dominique Seux, bonjour Christiane Lambert. Je m'appelle Stécie Algrin, je suis étudiante en master politique environnementale à Sciences Po et je suis également la fondatrice du projet Penser l'après. Alors aujourd'hui, ma question pour vous, Christiane Lambert, est la suivante. La FNSEA a souvent été accusée d'instrumentaliser les crises. Nous en avons eu un exemple lors de la crise des Gilets jaunes et plus récemment lors du Covid-19. Apparemment, ça a semblé vous inspirer une campagne assez, assez impressionnante avec le hashtag « On vous nourrit », dont le but semblait être de renforcer l'idée que production locale égale durable. Ne pensez-vous pas qu'utiliser ces moments historiques pour défendre un système agricole, industriel et dépendant des intrants va à l'encontre, au final, de ce qui serait nécessaire d'appliquer aujourd'hui ?
Voilà une question cash.
Oui, et voilà une
réponse cash,
très caricaturale. Oui, c'est vrai, on nourrit les Français. L'agriculture à la française, c'est une agriculture très diversifiée. Une agriculture qui fait des produits locaux, peu transformés, aussi des produits transformés. Quand les Français ont acheté des pâtes, de la semoule, du lait en brique et du fromage râpé, ce sont des produits industriels. Est-ce que pour autant, ce sont des produits malsains ? La réponse est non. Cette espèce d'idée reçue que les produits industriels sont des produits pas sains, quand on va manger chez McDo, c'est des produits industriels, tous les jeunes y courent. Donc, moi, je pense qu'il y a des confusions dans les affirmations. D'abord, la FNSEA a en son sein 7% d'agriculteurs en bio comme la moyenne des Français, défend les producteurs locaux. Nous sommes battus pour défendre les marchés que le Premier ministre avait fermés d'autorité. Mmh. Et on n'a rien surfé sur les gilets jaunes, on ne s'est pas associé. Du tout.
Vous sur les finances, l'aspect financier et les réglementations. Et lors de cette crise du Covid-19, vous en avez profité également pour réduire la distance d'épandage entre les champs et
pas
les
du
habitations.
Tout. Les textes étaient dans les tuyaux et les textes avaient ce calendrier-là. Moi, j'ai pas choisi la date de confinement. Je suis désolée, j'ai pas non plus choisi le calendrier sur le sujet ZNT. Après, tout ça, c'est instrumentalisé beaucoup par des mouvements ou des syndicats concurrents, mais moi, je m'inscris en faux totalement contre ces sujets. Oui, c'est vrai que les agriculteurs français produisent de l'alimentation. Oui, c'est vrai que dans le monde entier, l'alimentation à la française est plébiscitée. Vous allez à l'autre bout du monde, ah, les Français, vous avez de la chance, la bonne alimentation. Comment se fait-il que les Français, qui quand même bénéficient de cette alimentation, alimentation santé, etc., soient aussi critiques sur ces sujets. Vous avez la liberté d'acheter des produits industriels ou des produits peu transformés, c'est votre choix. Si vous voulez cuisiner, c'est possible. Si vous voulez pas cuisiner, vous achetez des plats préparés tout prêts. Toute la gamme est disponible. Et après, c'est chacun selon son éthique de vie, son porte-monnaie. Mais nous, nous produisons pour toutes les familles, pour toutes les bourses et pour tous les
Alors,
modèles.
Est-ce que la réponse vous satisfait ?
Non, pas vraiment. Je pense que c'est un peu facile de se cacher derrière le fait qu'on a des alternatives qui sont saines pour dire qu'on n'a pas des pistes d'amélioration. Aujourd'hui, la France est prédécesseur sur beaucoup de sujets, mais je pense qu'on a encore beaucoup d'évolutions à mettre en place. Et c'est aussi là la place de la France, qui est un leader sur ce domaine, d'agir et de montrer un
Alors,
peu...
Alors moi, je vais vous donner un exemple très concret, mademoiselle. La France est leader pour interdire certains produits phytosanitaires. On arrête de produire des carottes en France, on arrête de produire des cerises en France, on les importe de pays qui utilisent le diméthoate sur les cerises, le biosulfocarbe sur les carottes, ailleurs en Espagne ou en Italie, et on les mange, et vous les mangez, je les mange, je les achète. En tout cas, nous, on les produit plus. Donc, on fait du chômage en France, on fait des faillites en agriculture, mais on ouvre les frontières à ces produits-là. Nous, on est contre. Donc voilà, on est contre, on a été contre les accords commerciaux scélérats qui font rentrer sur notre territoire des produits venant d'ailleurs qui ne respectent absolument pas les règles. Nous sommes d'ailleurs sur ce sujet en phase avec France Nature Environnement, avec la Fondation Nicolas Hulot ou avec WWF. J'ai signé une tribune avec Pascal Canfin il y a 2 ans, justement sur ce sujet. Donc l'image entretenue de la FNSEA ringarde et productiviste et agro-industrielle, elle est ringarde, elle est révolue, il faut changer le logiciel. C'est
moi,
plus ça.
Juste qu'on pourrait justement s'inspirer du modèle à la française et pousser ce modèle-là en Europe pour que la compétition soit à nouveau équitable.
Ah ben je le souhaite, mais n'empêche que quand les autres pays européens font d'autres choix et nous piquent les marchés, je peux vous dire qu'on est les premiers, nous, à râler parce qu'on veut produire en France, vraiment.
Allez, on prend la deuxième question.
Merci beaucoup. Bonjour Dominique Seux, bonjour Christiane Lambert, Mathieu Nogues, chargé de recherche à la chaire Transition démographique, Transition économique. Et j'aurais justement une question sur les jeunes. Selon l'INSEE, le nombre de chefs d'exploitation et co-exploitants de moins de 40 ans a été divisé par 2 depuis l'an 2000. Alors, comment redonner envie aux jeunes d'être exploitants agricoles aujourd'hui ?
En arrêtant de flinguer l'agriculture, comme je viens de l'entendre à l'instant, par exemple. Vous savez, les critiques dirigées en permanence contre les agriculteurs. La nuit dernière, un agriculteur qui traitait ses cultures la nuit pour déranger personne parce qu'il n'y avait pas de vent et pour ne pas embêter les abeilles, a eu 3 coups de fusil dans son pulvérisateur. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Alors, on manque de jeunes. Mais il y a un retour intéressant de jeunes, justement vers des projets nouveaux, innovants. Plus de jeunes, plus de femmes. Plus de jeunes qui s'installent dans des métiers où ils vont jusqu'au bout du produit. Des vignerons, des vigneronnes, des gens qui transforment le produit, qui vendent en direct. Et puis des gens qui adoptent des nouvelles techniques de production, comme le non-labour, qui sont sur des exploitations où ils ont totalement digitalisé le suivi de leur exploitation, parce que c'est intéressant pour faire de l'agriculture de précision et aussi pour réduire les intrants. parce qu'on veut optimiser de cette façon-là aussi. Quand on connaît mieux les sols en les analysant, on choisit mieux ses cultures, on choisit mieux les intrants, on peut diminuer davantage, et ainsi on fait l'agriculture de précision, réduisant les intrants. Et la jeune génération aujourd'hui a des exigences différentes vis-à-vis du métier. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas agriculteurs comme toute leur vie, comme étaient leurs parents, si jamais ça marche mal en termes de revenus.
Mais c'est possible ça, en fait, de faire 10 ans d'agriculture et d'aller travailler 10 ans après dans tout à fait une autre branche ?
Alors, il y a déjà des gens qui travaillent ailleurs et qui reviennent à l'agriculture. Moi, j'ai un voisin qui travaillait chez Compaq et qui est aujourd'hui agriculteur. Il était informaticien, il en avait assez, il y a 40 ans, il vient, il s'installe, etc. Mais on a aussi des gens qui font un parcours en agriculture, puis qui après changent totalement d'horizon. La mobilité professionnelle est arrivée aujourd'hui dans l'agriculture. Par contre, les jeunes sont plus formés. On a de plus en plus de BTS, d'ingénieurs agronomes. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant.
Hugo, vous aimeriez être agriculteur ou pas ?
Alors, je ne sais pas si j'aimerais être agriculteur ou si je pourrais répondre à cette question.
Voilà, c'est l'étudiant suivant. Hein.
Là, maintenant, voilà, je me présente. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, Hugo Ulrich, étudiant à Paris Dauphine en affaires relations internationales. Sans répondre à la question de mon avenir agricole prochain, j'aimerais juste rebondir sur une déclaration que vous avez faite, Madame Lambert, sur le fait qu'il faudrait changer le logiciel. On voit bien depuis que vous êtes arrivée à la tête de la FNSEA que vous essayez officiellement de donner une image qui finalement est beaucoup plus tournée vers une agriculture durable, comme vous l'avez dit, et comme vous avez aussi déclaré que ça faisait bien longtemps que la FNSEA avait vu venir les signaux verts que la population réclame. Dans le même temps, la FNSEA et vous-même, en décembre 2019, avez soutenu la création d'une cellule de la gendarmerie, la fameuse cellule Déméter, qui est une cellule qui officiellement a pour but de mieux protéger les agriculteurs, ce qui n'avait pas besoin d'une cellule supplémentaire, sachant que c'est déjà dans le code pénal de protéger les agriculteurs. Et cette cellule est vivement critiquée par de nombreuses organisations, notamment Greenpeace, Foodwatch, le CNRS, mais aussi des agriculteurs, au travers de la Confédération Paysanne. Cette cellule, on lui reproche notamment l'intimidation, la surveillance et aussi la répression de quiconque cherche à dénoncer l'impact néfaste sur l'écologie et sur la santé des personnes du système agriculture, agricole, industriel que vous défendez par ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas ici un double discours entre un discours qui se veut plus moderne, plus écologiste, et en même temps soutenir une cellule qui finalement muselle les personnes qui cherchent justement à critiquer et à défendre une agriculture plus nouvelle? Et est-ce que vous serez prête aujourd'hui ici, face à ce micro, à soutenir l'appel de ces ONG et à vous aussi demander le démantèlement de cette cellule Déméter? Merci.
Alors, moi, mes convictions, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a 20 ans, j'ai présidé le Forum de l'agriculture raisonnée respectueuse de l'environnement, durant 4 ans, 5 ans même. Mon exploitation est certifiée agriculture raisonnée lorsque le dispositif existait. Elle est aujourd'hui certifiée haute valeur environnementale. Vous pouvez venir chez moi, c'est ouvert. Vous pouvez visiter mon élevage, c'est ouvert. J'ai rien à cacher, absolument rien. Et ce que je dis, je le fais chez moi, tous les jours.
La question porte plus sur débat possible dans la profession agricole entre les deux.
Je ne nie pas que votre élevage est.
Vous avez dit double discours. J'ai pas de double discours. Je fais ce que je dis ce que je fais. Je suis dans l'action et je suis représentante professionnelle.
De la France.
Je porte le changement. Au sein de la FNSEA, on a créé un comité de parties prenantes où on fait venir des philosophes, des sociologues, des économistes, des anthropologues, des gens qui viennent éclairer, porter regard sur ce que nous faisons et les changements que nous portons. Les agriculteurs qui ont voté à 50% ont voté à 55% pour la FNSEA. La démocratie a parlé, les agriculteurs ont choisi ce discours-là. Le changement, nous le portons. Là où vous faites, où on fait pas la même analyse, mais là où je suis pas d'accord avec ce que vous dites sur cette fameuse cellule, c'est quoi ? Moi, j'accepte le dialogue avec tout le monde. Pour preuve, je suis là, et quand même, c'est assez orienté. Mais ce que je veux dire, c'est que quand l'agriculture change, il faut le reconnaître. Ce qui désespère les agriculteurs et leur coupe l'envie de continuer à avancer, c'est que quoi qu'ils fassent, ça va jamais. Moi, je dis que quand il y a des progrès dans un secteur, il faut être capable de le reconnaître, ça encourage les gens. C'est pas moi qui ai inventé le mot agribashing, c'est un député du Nord qui s'appelle Monsieur Krabal et qui a dit attention à l'agriculture bashing, a toujours critiqué, vous allez désespérer les agriculteurs. Moi, j'accepte le dialogue serein et responsable, comme ici. Par contre, ce que je n'accepte pas, ce sont les intrusions dans les élevages, les actes malveillants, les actes criminels. Quelqu'un qui tire avec un fusil sur un tracteur, comme cet été dans le Jura, ou sur un pulvérisateur, est-ce que vous le cautionnez? Je pense que non. Donc ça, ce sont des actes qu'il faut dénoncer. Et c'est pas moi qui ai décidé de créer cette cellule, c'est le ministère de l'Intérieur. Ils l'ont appelée cellule
avec
Déméter. Pas ma signature.
Oui,
moi, j'ai signé une convention.
Avec
mais
votre
j'ai pas. Laissez-moi terminer.
Non, mais
j'ai
juste
pas
pour
signé.
Rebondir ce que vous avez dit. Toutes les actions que vous avez dit tirées sur les agriculteurs, l'agribashing, c'est quelque chose qui est déjà aujourd'hui dans la loi puni. Le vandalisme, c'est quelque chose de puni. Pourquoi y avait-il besoin d'une cellule supplémentaire qui, dans les faits aujourd'hui, sert majoritairement à faire de la surveillance, de la répression
et savez,
de l'intimidation?
Vous savez pourquoi ça a été créé au tout début? Ça a été créé essentiellement.
S'il vous plaît.
On va laisser peut-être Christiane Lambert répondre à sa question.
Ça a été créé essentiellement lorsqu'il y a eu une recrudescence de vols, y compris de tracteurs, y compris de GPS, qui sont des outils et des appareils chers, et qu'il a fallu tracer pour pouvoir les récupérer. Il y avait des filières qui s'étaient créées, ça partait vers l'Est. Et donc au début, ça a été des vols, rentrer dans les exploitations pour voler des tracteurs, des GPS, des batteries, des moteurs, d'irrigation, etc. Donc une incidence économique très lourde. Le vol, c'est réprimandé. Quelqu'un vient voler chez vous, vous portez plainte. C'est juste normal. Quelqu'un rentre dans votre maison, quelqu'un rentre dans mon bâtiment, je porte plainte. C'est normal. Voilà ce qu'est cette cellule et voilà pourquoi elle est faite par rapport à des actes malveillants, délictueux, criminels. Mais c'est autre chose que le débat. Moi, je débat avec tout le monde. Je suis allée à la fête de l'humanité, je vais au MEDEF, je vais partout où on m'invite. Et où les gens sont respectueux du dialogue. Mais j'entends toutes les demandes d'évolution faites à l'agriculture et je travaille pour le faire. Par contre, quand il y a des actes violents ou d'intimidation, je m'inscris en faux, et c'est le rôle du ministre
Combien
de l'Intérieur.
Combien y a-t-il eu d'actes violents, est-ce qu'on sait? Vous recensez, vous?
Oui, puisque le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelait Monsieur Castaner, Christophe Castaner, avait chiffré à 16 intrusions en élevage en 2017, c'est passé à 71 en 2018, et en 2019, on est passé au-dessus de 150. On ne peut pas tolérer que n'importe qui rentre dans un élevage. J'ajoute que...
Très bien, on va
si
prendre
vous
la
êtes,
dernière question.
Pour ceux qui sont en études agricoles ou environnementales, vous savez qu'il y a des questions de sécurité, de biosécurité et sanitaire. On ne rentre pas sans protection dans un élevage. Moi, j'ai un élevage de porc. Si la peste porcine africaine arrive dans mon élevage, je perds tout. Rentrer
on
comme ça dans un élevage,
question,
c'est
si
pas,
vous
c'est
voulez
pas possible.
Oui, s'il vous plaît.
Bonjour Dominique Seux, bonjour Christiane Lambert, Sophia Garmier, étudiante en géopolitique et prospective à l'ERESUP et en management à Grenoble, école de management. Alors moi, ma question va être beaucoup plus sur les solidarités et le pacifisme. À l'horizon 2050, on s'attend à des chocs démographiques et à des changements climatiques qui risquent de renforcer, voire de créer des insécurités alimentaires. Est-ce qu'il ne serait pas justement le moment de développer des accords de libre-échange plus équitable, fondée sur la complémentarité des productions et justement sur des standards sanitaires élevés? Vous dénonciez justement, à juste titre à mon sens, les distorsions de concurrence. Donc est-ce que ce ne serait pas dès à présent le moment de militer pour de tels accords pour pallier ce risque qui va très vite arriver?
Christiane Lambert vous répond.
La FAO, qui supervise tout ce qui est alimentation dans le monde, dit qu'avec l'augmentation de la population, il faut augmenter de 70% la production pour nourrir tout le monde. La FAO dit aussi qu'avec la crise Covid, il y aura plus de morts de faim que du Covid dans certains pays. Donc l'alimentation, c'est stratégique. La France et l'Europe ont la chance d'avoir une agriculture qui produit, qui sait transformer les produits, les rendre stockables. Quand on envoie des rations de lait ou des rations de biscuits ou de viande à l'autre bout de la planète, aux Rohingyas ou aux Syriens qui sont chassés de chez eux, ça, c'est de la souveraineté alimentaire solidaire. Et moi, j'apprécie que vous le portiez ainsi. La France est un pays qui a un potentiel de production. L'Égypte, qui a 85 millions d'habitants, n'a que 10% de ses terres cultivables. Le reste, c'est du désert. On leur dit quoi? Manger du sable? Non, on leur dit, vous êtes capable de faire certaines productions. Nous, on est capable de faire du blé, qui est l'alimentation majeure des Égyptiens. Et donc, il y a ce commerce-là. Et jusqu'à maintenant, dans les échanges commerciaux internationaux, il n'était pas du tout tenu compte des aspects environnementaux. Enfin, et ça bouge depuis un mois, Phil Hogan, qui est responsable du commerce européen, parle d'autonomie stratégique ouverte, c'est-à-dire commercer, mais en tenant compte, un, des accords de Paris, des empreintes carbone.
Parfait.
Et des potentiels des différents pays.
Alors,
ça évolue.
Pour finir, un tout petit questionnaire, vous allez répondre par oui ou par non, ou par juste une idée, mais ce sera une demi-phrase, un oui ou par non. De temps en temps, est-ce que vous êtes un peu exaspéré par les campagnes sur le bien-être animal? Oui ou non?
Oui.
Oui. Quel est le bon prix, le prix juste pour le litre de lait en France, à votre avis?
396 euros tonne, prix pour avoir deux SMIC pour un éleveur.
Donc 40 centimes.
39 centimes 6, pardon, je parle en 39 centimes 6.
Une question un peu plus personnelle. Vous vous affichez publiquement comme catholique, donc on peut en parler. Vous avez tweeté, j'ai noté ça, il y a quelques jours, juste après l'incendie de la cathédrale de Nantes, vous avez dit « Ceux qui ont la foi et tous ceux qui prônent le respect sont bouleversés ». Donc ça veut dire que c'est public. Vous êtes une femme publique, votre voix compte. Est-ce que vous comprenez la démarche de ces femmes, comme Anne Soupa, qui postulent officiellement à des postes de prêtres, d'évêques, pour revendiquer davantage de place pour les femmes dans l'Église catholique ?
Je ne peux pas répondre par oui ou par non, là.
Une demi-phrase.
Moi, j'ai des convictions religieuses qui m'ont été transmises par ma famille. C'était le cœur, le centre de la vie en famille. Être utile, être respectueux, travailler et travailler aussi pour les autres. Donc, la disponibilité aux autres, l'ouverture, la tolérance, l'écoute.
Alors, c'est oui ou c'est non ?
Oui, j'assume, elle a raison de le faire. Et la place des femmes dans l'Église, c'est tout un débat, mais il faut qu'il y ait plus de place pour elles. Et franchement, c'est à la fois un ancrage et un ressort et un carburant, la foi. Quand on a la foi, c'est très précieux.
Être ministre, ça vous tenterait un jour ou l'autre
non.
ou pas ? Sûrement.
Non.
On ne ressortira pas dans quelques années.
Non, je
ne
vais pas faire comme Roselyne Bachelot. J'ai été sollicitée plusieurs fois pour des mandats politiques. J'ai toujours refusé. Mon truc, c'est militer pour défendre les agriculteurs et faire évoluer l'agriculture.
C'était le dernier entretien de ce mois de juillet. Vous pouvez réécouter sur le site et l'appli de France Inter les émissions avec Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE, Emmanuel Faber, PDG de Danone, Arnaud Montebourg, Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel, et donc Christiane Lambert. Merci. Merci à Pierre-Yves de Rolin. Merci à Vera Louderit pour la préparation de l'émission et à Rachid Zerdaoui. Et bien sûr, à Hélène Bizéo pour sa réalisation pendant tout le mois de juillet. Un remerciement spécial, en plus, à Sophie Parizel du Cercle des économistes pour nous avoir très gentiment et efficacement mis en contact avec les étudiants. Bonne soirée à tous.